maintenant, tu nous places, Seigneur, comme dans l'instant qui a précédé devant ta parole. C'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin d'autre chose que notre propre intelligence pour la comprendre, non pas intellectuellement, Seigneur, mais spirituellement, c'est-à-dire la comprendre en profondeur, une parole qui est faite, qui est destinée pour nous faire vivre et pour nous faire avancer dans la connaissance de Jésus-Christ, et puis pour nous faire avancer aussi dans le service de notre Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci pour ce temps que tu mets à part pour nous. C'est toi qui es venu à notre rencontre. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter. Et nous te demandons vraiment que ton Saint-Esprit soit avec nous maintenant. Oui, que nos cœurs soient interrogés, que nos cœurs soient surpris, que nos cœurs soient à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Amen. Je vais vous lire un texte aujourd'hui dans Actes, au chapitre 1, premier verset du premier chapitre. Et on lira les 14 premiers versets. Donc Actes, chapitre 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Jeudi dernier, c'était quoi ? Chapeau, hein ? Je dis chapeau parce que pour beaucoup de nos contemporains, l'ascension, c'est rien d'autre qu'un pont qui permet à certains salariés de prendre 4 jours de congés consécutifs. C'est pas de chance quand même que que l'Ascension, cette fête chrétienne, tombe un jeudi. Si c'était un dimanche, il y a beaucoup moins d'églises qui auraient abandonné un petit peu la célébration de cette fête. Hein, vous ne trouvez pas? En quoi cette fête est-elle importante pour les chrétiens? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. L'Écriture rappelle qu'après sa résurrection, Jésus s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. On l'a lu dans le texte. Puis il a quitté cette terre pour remonter au ciel. Matthieu et Jean ne parlent pas de cet événement. Marc, il l'évoque en une seule phrase, chapitre 16, verset 19. Et Luc, dans son évangile, et surtout dans les Actes des apôtres, accorde plus de place à l'ascension de Jésus. Voyons en quoi ce qu'il nous dit, ce Luc-là, en quoi ce qu'il nous dit est important. Le récit des dernières heures du ressuscité sur terre est accompagné de deux promesses qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ou alors, c'est grave. La première, c'est que les disciples vont bientôt recevoir la promesse du Père. C'est quoi la promesse du Père? C'est être baptisé d'Esprit Saint. On voit ça au verset 5. La deuxième promesse, c'est que Jésus viendra un jour, reviendra. Mais en grec, le verbe c'est viendra un jour. Pour la seconde fois, on pourrait ajouter. Le croyant peut donc vivre dans l'espérance du retour de Christ. Je vais commencer par la seconde promesse. Le retour de Jésus est un thème fréquent dans le Nouveau Testament. Jésus avait enseigné ses disciples sur l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Peu avant son arrestation, Jésus avait dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, 3. Et la fin de l'Apocalypse reprend également cette promesse. Celui qui atteste cela dit, « Oui, je viens bientôt. » C'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Et enfin, il y a plusieurs paraboles qui nous parlent du retour de Jésus. Les talents, Matthieu 25. Le maître absent, Marc 13, les serviteurs qui attendent le retour de leur maître, Luc 12. Donc vous voyez, ce n'est pas une fois que Jésus a parlé de son retour, c'est souvent. La perspective de cet événement, qui ne manquera pas de se produire, mais c'est loin, hein. Je pense que c'est loin. Mais si c'était demain, qu'est-ce que ça déclencherait en nous? La peur ou la joie? Il y en a qui sont bien sûrs là. S'il déclenche la peur, c'est le signe que la question de notre salut n'est pas encore réglée. Et c'est peut-être l'occasion de demander au Seigneur de nous mettre au clair sur ce point. En effet, ne pas être certain de son salut cache souvent le fait que le salut doit se mériter. Donc, que l'on doit faire quelque chose pour son salut. Avec la peur toujours présente de n'en avoir pas fait assez. Cette pensée, profondément ancrée en soi, et les attitudes qui en découlent ne signifient pas, mais pas du tout, que l'on ignore ce que Paul a dit aux Éphésiens. Je cite, Éphésiens 2:8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On peut parfaitement connaître intellectuellement cette promesse centrale de l'Évangile et ne pas la vivre spirituellement en essayant de mériter son salut par ses œuvres. Si les hommes ont inventé les indulgences, et si elles ont eu tant de succès, c'est bien à cause de ce doute, de cette incertitude qui planait dans les esprits. Et cela, frères et sœurs, a des conséquences terribles. Plus on cherche à faire son salut soi-même, moins on comprend ce qu'est la grâce de Dieu. Et donc, moins on est reconnaissant pour cette grâce parfaitement imméritée. À l'inverse, plus on a conscience que la grâce est imméritée, plus on a le désir de servir Dieu gratuitement, par amour, par reconnaissance. Moi, je ne connais pas vos cœurs, frères et sœurs, hein, mais il y en a un qui les connaît. Alors, s'il subsiste en vous le moindre doute à propos de votre salut, alors relisez Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et demandiez à Dieu de vous éclairer. Et si cela ne suffit pas, allez voir votre pasteur le plus tôt possible. Ne laissez pas vos pensées et vos actes être conduits par des compréhensions contraires à la vérité de l'Évangile. Venons-en maintenant à la première promesse du texte, le baptême dans l'Esprit. Cette promesse devrait enthousiasmer les croyants. Pourquoi ? Et parce que c'est une promesse du Père, comme on l'a lu dans Acte 1. C'est une promesse du Père, de Papa, Abba. Quel enfant ne voudrait pas recevoir la promesse de son Père s'il l'aime ? Quel fils ne voudrait pas recevoir tout ce que son Père a prévu pour lui s'il l'aime et s'il veut le servir ? En effet, Jésus nous présente le baptême dans l'Esprit comme une puissance dont Dieu revêt le croyant afin qu'il devienne son témoin. Je cite, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et, lien de cause à effet, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chapitre 1, verset 8. Si les mots que Jésus emploie ont une valeur, et j'espère que nous n'en doutons pas que les mots que Jésus emploie ont une valeur, cela veut dire qu'annoncer l'Évangile sans avoir reçu le baptême dans l'Esprit, c'est parler de l'Évangile sans la puissance de l'Esprit. Jésus n'envisage pas que son Église se construise ainsi. Il y a un rapport de cause à effet entre recevoir le baptême dans l'Esprit et une annonce de l'Évangile comme en parle le Nouveau Testament. C'est-à-dire une annonce confirmée par des actes de puissance et des dons de l'Esprit. Conversion, guérison, délivrance, prophétie. Et autre chose, qu'est-ce qu'il nous dit Marc 16, 20 ? Le Seigneur agissait avec eux les disciples, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Bien que n'étant plus présent sur terre, c'est toujours le Seigneur qui agit par son Esprit. Le fait d'annoncer l'Évangile n'est pas forcément le signe de la présence de l'Esprit. N'importe qui, normalement intelligent et instruit, avec une petite connaissance de la Bible, est capable de prêcher à partir d'un texte de la Bible. Mais l'annonce de l'Évangile dont nous parle le Nouveau Testament n'a rien à voir avec cela. Deux versets nous font mieux comprendre ce que je veux dire. Les scribes étaient des hommes très intelligents. Ils connaissaient parfaitement la Torah. Et pourtant, les trois premiers évangiles nous disent que lorsque les foules écoutaient Jésus, elles étaient frappées par son enseignement, car, nous dit le texte, il les enseignait en homme qui a autorité, et le texte ajoute, et non comme leurs scribes. Matthieu 28, Marc 1, Luc 4. Les scribes avaient pour eux leur connaissance de la Torah. Jésus, lui, avait l'autorité que lui donnait le Saint-Esprit. En promettant à ses disciples qu'ils allaient être baptisés dans l'Esprit, Jésus voulait leur donner d'exercer cette même autorité, c'est-à-dire la sienne. Avez-vous remarqué ce que Luc écrit lorsque Jésus envoie ses disciples en mission? Il est écrit « Jésus appela les douze et leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Il les envoya prêcher le règne de Dieu et guérir. » Prêcher le règne de Dieu et guérir les malades. De quelle autorité s'agit-il? La sienne. Un autre exemple. Après que Pierre ait guéri un infirme de naissance, il est jeté en prison avec Jean par les chefs religieux qui ne supportent plus, mais plus du tout, de l'entendre parler de la résurrection de Jésus. On les fait comparaître et on leur pose la question. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Ça les intrigue, hein? Et Pierre répond, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Actes 4, 10. Et Luc commente l'attitude des chefs religieux. Écoutez bien. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple, sans instruction. Mais comme ils voyaient debout près d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Pierre, Jean et les autres n'avaient pas une maîtrise ou un doctorat en théologie, comme en ont les pasteurs. Par contre, ils avaient été revêtus de la puissance de l'Esprit à la Pentecôte. Ce qui leur permettait non seulement d'enseigner la parole comme le font les pasteurs, mais aussi, et c'est cela qui fait parfois toute la différence, de confirmer la vérité de la parole par des signes, guérisons, miracles, etc., que tous les docteurs en théologie du monde ne pourront jamais produire s'ils n'ont pas reçu ce baptême dans l'Esprit promis à tous les croyants. Dans beaucoup de communautés chrétiennes, l'annonce de l'Évangile est très éloignée de ce que nous montrent les Évangiles et les Actes. Les faits parlent d'eux-mêmes. La première question qui se pose est la suivante. Sommes-nous assez humbles pour reconnaître que nous manquons cruellement de cette puissance de l'Esprit qui nous est promise individuellement et communautairement. Sommes-nous assez humbles pour reconnaître ceci, que nous manquons cruellement de cette puissance de l'Esprit promise? La deuxième question, sommes-nous disposés à recevoir cette puissance? Et si oui, comment faire? Le texte des Actes nous donne la réponse. Oh, toute simple. Jésus commande à ses disciples de quoi faire? D'attendre la promesse du Père. Frères et sœurs, qu'est-ce qui caractérise l'attente? C'est le désir que l'attente prenne fin. Le désir de parvenir au but. Et ici, c'est quoi le but? C'est de recevoir l'Esprit promis, afin d'être équipé comme le Seigneur le promet. Comment peut-on affirmer que les disciples étaient dans cet état d'esprit? Eh bien, le texte nous répond encore une fois, versets 12 à 14. Après que les anges leur aient parlé, le texte nous dit « Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères. » Ils ne sont pas allés faire du ski ou du jet ski. Leur attente n'était pas passive. Leur attente était active. Le texte, bien sûr, ne nous renseigne pas sur le contenu de leur prière. Mais on peut aisément le deviner. Ils demandent que la promesse se réalise. Ils attendent d'être baptisés dans l'Esprit. Pourquoi? Parce que ils veulent être des témoins bouillants, des témoins puissants du Christ ressuscité. Ils ont attendu 10 jours, les disciples. Et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la promesse du Père. Et ils ont tout de suite commencé à témoigner avec puissance. 3000 conversions à la première prédication de Pierre, le cinquième de la ville de Thiers. Et de nombreux signes et prodiges, comme il nous l'est dit dans Actes 2, 41-43. Cette promesse est pour chacun de nous aussi. Si nous y accordons de l'importance, si nous avons soif de ce baptême, Christ nous baptisera dans l'Esprit Saint, comme l'avait prophétisé Jean-Baptiste, qui avait dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, vous baptisera d'Esprit Saint. Alors la question c'est, avons-nous soif de recevoir la promesse du Père? Vous savez ce que c'est la soif? C'est pas soif quand on a déjà bu 1,5 litre d'eau dans la journée. On boit par habitude. La soif, c'est quand on a marché dans le désert pendant 12 heures sans une goutte d'eau. On a tellement soif qu'on voit des mirages. On voit des palmiers et de l'eau à l'horizon, mais ce ne sont que des mirages. On a soif comment ? De recevoir l'Esprit Saint, frères et sœurs. Comme quand on est dans une rencontre mondaine, ou bien comme quand on est dans le désert, n'ayant pas bu depuis des heures et des heures, sous un soleil accablant. C'est pas une fausse image, ce que je suis en train de dire. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur, tu sais combien, comment nous avons accepté cette parole de acte 1, cette promesse du Père, ou cette promesse du Père qui dit que tu veux nous baptiser, que Jésus veut nous baptiser dans le Saint-Esprit, ou bien cette promesse que Jésus va venir pour la seconde fois. Comment avons-nous accueilli cette parole, Seigneur ? Quelle soif, Seigneur, avons-nous au fond de nous-mêmes, sans tricher ? Quelle soif avons-nous, Seigneur, de recevoir cette promesse que tu as promis, être baptisé dans l'Esprit Saint, pour être un témoin de Jésus-Christ, comme ton cœur désire que nous le soyons. Parle-nous, s'il te plaît, Seigneur, que nous ne nous dissimulions rien. Et donne-nous cette soif, Seigneur. Parce que tu as dit une chose magnifique dans un autre passage. Si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Sonde nos cœurs, s'il te plaît, Seigneur, pour que nous ayons soif de recevoir ce baptême. Amen.